Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. On attaque ensemble 2021. Je vous souhaite de pouvoir y faire des voyages et de belles rencontres. Jusqu'à 14h, on va écouter le monde qui change. En Argentine d'abord, vote historique cette semaine, résultat de décennies de combats des femmes. L'interruption volontaire de grossesse est désormais légale. Immense avancée sur un continent globalement très conservateur. On va entendre plusieurs générations de ces militantes. On ira aussi à la rencontre des pêcheurs britanniques. Ils avaient voulu le Brexit pour récupérer l'usage exclusif de leurs eaux territoriales. L'accord signé in extremis cette semaine ne va pas dans ce sens-là, c'est la douche froide. En Inde, ce sont les agriculteurs qui sont en colère et qui se massent par dizaines de milliers aux abords de la capitale, New Delhi. Ils craignent que les nouvelles lois libérales dans leur secteur ne fassent disparaître leurs petites exploitations. Et puis nous irons en Thaïlande, sur les plages du sud du pays, plus belles que jamais depuis que les touristes n'y viennent plus. Avec une double conséquence, c'est la catastrophe pour tous ceux, nombreux, qui vivaient du tourisme de masse. Et en même temps, les Thaïlandais redécouvrent certains lieux dans leur propre pays. Les carnets du monde sont ouverts et notre première étape aujourd'hui est un peu particulière.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
On démarre avec un coup de chapeau à l'ami François Claus qui a dit au revoir vendredi à notre Maison Bleue après plus de 36 ans de vadrouille. Et une passion notamment pour le grand reportage. Tout jeune déjà, à peine arrivé à Europe 1 et face au grand André Arnault, des indices laissaient paraître son intérêt pour l'étranger.
Un gang de Yougoslaves démantelé à Paris, un coup fructueux de la brigade de répression du banditisme, François Claus.
On commence lundi avec une arrestation à Montreuil-sous-Bois, dans la région parisienne. Les inspecteurs de la brigade de répression du banditisme interceptent un véhicule avec à son bord deux hommes, deux réfugiés yougoslaves âgés de 38 et 21 ans. Surprise, en ouvrant le coffre de cette voiture, les policiers découvrent, ébahis, sept tableaux, dont certaines œuvres de grands maîtres. Ainsi, le portrait de la duchesse d'Orléans, signé Fantin Latour, et puis également le portrait d'un vieillard, une œuvre de Jacob Jordaens, un élève de Rubens.
Au-delà de ce petit clin d'œil, très vite, François quitte les studios. Il veut être sur le terrain, là où ça se passe, pour raconter les petites histoires et la grande, novembre 89.
J'ai emprunté hier soir la route de la liberté. Parti à 19h15 du centre de Berlin-Est, il m'a fallu plus de 3 heures pour passer à l'ouest par le poste le plus célèbre, le Checkpoint Charlie. 3 heures d'attente dans une file ininterrompue de petites Trabant qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Les regards trahissent d'abord une certaine inquiétude. C'est pas vrai, on ne passera pas. Certains préfèrent même laisser leur voiture sur le bas-côté et finir à pied pour être sûr de voir l'ouest, le vrai. Après 3 heures d'attente, la frontière est franchie. Plusieurs milliers de Berlinois de l'Ouest sont là pour nous accueillir de l'autre côté du mur avec des fleurs et d'immenses drapeaux ouest-allemands. Les flashs crépitent. C'est une page d'histoire qui se tourne. Berlin, François Claus, Europe 1.
Raconter les grands enjeux du monde, les grandes élections aussi, mais toujours à hauteur d'homme. États-Unis, 1992.
Welcome in Paris. Texas, indique la petite pancarte sur la route 24. Vendredi 31 octobre 1992, à 14h, il fait 28 degrés à l'ombre. Première rencontre, un physique à la Harrison Ford, 1m90, un costume impeccable, une cravate, mais au pied, d'invraisemblable Santiago à faire pâlir d'envie le moindre rocker de nos banlieues. Voici Earl Berner.
I'm a state district judge. Well, I think that Governor Clinton will win. Hope he does.
C'est le juge de la ville. Il votera démocrate. Il espère que Clinton sera élu. À Paris, Texas, on donne sa voix aux démocrates.
Algérie, 1999.
À Tizi Ouzou, on est fiers. C'est ici, dans la capitale de la Grande Kabylie, que le taux de participation à l'élection a été le plus faible, moins de 5%. Dans les permanences des partis, agrippés à de petits transistors, on a écouté hier soir, sourire aux lèvres ou colère au ventre, la première déclaration du nouveau président. Pouvoir assassin, Bouteflika dehors, scandent les manifestants.
Côte d'Ivoire, 2010.
Car
quartier de Habobo, nord d'Abidjan, des dizaines de milliers d'habitants s'entassent dans des baraques de fortune le long des ruelles en terre battue. L'un des quartiers les plus pauvres de la ville, l'un des plus peuplés, fief de Ouattara. À 200 mètres de la sortie, le barrage, les forces de police spéciales de Laurent Gbagbo. Notre voiture avance doucement. L'un des policiers arme sa kalachnikov, pose un genou à terre et tire sans la moindre sommation pour nous obliger à faire demi-tour.
Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go?
Et puis bien sûr, il y a les années Proche-Orient de François Claus comme correspondant.
You're happy when I'm on my knees.
À Jérusalem, François Claus, Europe 1.
La couverture des printemps arabes aussi, ou de la guerre en Syrie.
Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith.
Dans les restes dévastés de l'une des maisons martyrs de Homs, façade éventrée par les obus et les roquettes, c'était le week-end du 11 novembre. À la tombée de la nuit, une centaine d'hommes des forces spéciales se déploient dans le quartier de Bayada pour massacrer un groupe de 9 jeunes activistes du net, des tanks, des blindés, contre des caméras et des ordinateurs. Nassim, 22 ans, est le seul survivant.
Voilà, aucune prétention d'être exhaustif, c'est impossible de toute façon. On avait juste envie d'entendre encore un peu cette voix, reconnaissable entre mille, ce ton, cette écriture, cette culture d'un grand, grand reporter. Merci François d'avoir su nous raconter si bien sur Europe 1, le monde qui change et bon vent.
See the stone set in your eyes, see the thorn twist in your side, I'll wait for you.
Didier Ouzou, François Claus, Europe 1.
À Abidjan, François Claus, Europe 1. À Homs, François Claus, Europe 1. À Bamako, François Claus, Europe 1. À Rafah, François Claus, Europe 1.
À Rio de Janeiro, François Claus, Europe 1.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
L'Argentine finit 2020 sur une note historique en légalisant l'IVG. Après des débats houleux au Congrès, les sénateurs ont adopté cette semaine le projet de loi du gouvernement qui autorise l'avortement gratuit et sans condition jusqu'à la 14e semaine de grossesse. Cette avancée majeure pour les droits des femmes est en partie due à la grande mobilisation féministe que connaît le pays depuis 2018. Mais pas seulement, cette lutte sociale et politique remonte à bien plus longtemps. Et c'est grâce à l'union de plusieurs générations de femmes que l'IVG est désormais légale en Argentine. Écoutez ce reportage de notre correspondante à Buenos Aires, Aude Villiers-Moriamé.
L'émotion est immense lorsque peu après 4h du matin, mercredi, les sénateurs approuvent la légalisation de l'IVG. Rassemblés depuis des heures devant le Congrès, des milliers de militantes pleurent de joie et se prennent dans les bras. Des Argentines de tout âge sont venues soutenir l'adoption de ce texte, mais Covid oblige, ce sont surtout les plus jeunes qui ont pris part à la manifestation, comme Agustina, étudiante de 20 ans.
Ma grand-mère a avorté et mon arrière-arrière-grand-mère est morte à la suite d'un avortement clandestin. C'est vraiment déplorable que tant de vies aient été perdues à cause de l'absence de l'État sur cette problématique.
Agustina était au lycée lorsqu'elle a commencé à manifester pour la légalisation de l'IVG et a porté, noué à son sac, le foulard vert, symbole de la campagne pour le droit à l'avortement légal, sans risque et gratuit.
Chez moi, le sujet n'était pas un tabou, mais on n'en parlait pas vraiment. Personne ne se demandait est-ce que c'est normal que l'avortement soit clandestin. C'était comme ça et c'est tout. Personne n'était engagé sur la question. C'est moi qui amenais le militantisme à la maison en 2016, alors que je manifestais avec mes amis. Ensuite, ma famille m'a rejointe. Ma sœur m'a même dit un jour, tu sais, je crois que moi aussi je suis féministe. Puis ma mère. Et voilà, on est devenu une famille féministe.
Ces discussions et transmissions d'une génération à l'autre sont fréquentes depuis quelques années en Argentine. En 2018, lors d'une mobilisation massive et sans précédent, des centaines de milliers de jeunes femmes ont contribué à libérer la parole au sein de la société et de leur famille.
Ah,
Mais la marée verte, appelée ainsi en référence à la couleur adoptée par les féministes, n'est pas seulement le résultat de la mobilisation de ces jeunes femmes. D'autres préparent le terrain depuis déjà des décennies.
Hola, buen día. Ahora me pongo el barbijo.
Alicia Scherter, 71 ans, psychologue et ancienne infirmière, fait partie de celles qui sont surnommées les históricas, les militantes historiques pour le droit à l'avortement.
En 1982, on a créé une organisation féministe, l'Association d'études et de travail pour les femmes. C'est quelques années plus tard, durant une journée de débat, qu'est née la Commission pour le droit à l'avortement. Pour nous, c'était une revendication dont le mouvement féministe devait s'emparer. On était très peu à l'époque, 5 ou 6 militantes. On se réunissait à un coin de rue pour distribuer des tracts et obtenir des signatures pour pouvoir déposer un projet de loi. Les passants nous traitaient parfois de criminels.
Jusqu'au début des années 2000, le féminisme grandit timidement en Argentine, pays de tradition très catholique. Le mouvement explose en 2015 lorsque les Argentines s'insurgent contre les violences faites aux femmes. Ce sont les manifestations Ni Una Menos. Et c'est à ce moment-là que le combat pour le droit à l'avortement gagne de la visibilité, notamment auprès des jeunes femmes. Alicia Scherter.
Nous avons réussi à effectuer un travail de transmission d'une génération à une autre. À transmettre à ces jeunes femmes l'idée que ça vaut la peine de se battre, que l'on peut conquérir des droits grâce à cela. Mais les jeunes ont accompli énormément par elles-mêmes aussi. La preuve, ce sont elles qui, en se mobilisant, ont réussi à obtenir ce pour quoi on lutte depuis 30 ans. Je crois que la jeunesse trace sa propre voie.
Loin de penser qu'on leur vole la vedette, les militantes de la première heure se disent ravies de voir les jeunes Argentines reprendre leur combat. Nina Brugo, 77 ans, a rédigé la toute première proposition de loi sur la légalisation de l'avortement présentée au Congrès en 2007.
Le combat pour le droit à l'avortement est révolutionnaire. En luttant pour notre autonomie en tant que femmes, nous remettons en question toutes les discriminations, toutes les inégalités. Le féminisme vise une utopie, un changement radical auquel s'opposent les secteurs réactionnaires. Et ce changement ne peut pas se réaliser du jour au lendemain. Ça demande des années. Donc moi, personnellement, ça ne m'a pas inquiété que ce combat prenne tant de temps.
Les Pibas, les jeunes Argentines, sont conscientes du chemin parcouru et savent qu'elles doivent beaucoup à leurs aînés. À l'image de Milagros, étudiante en droit.
Ce sont elles qui ont donné l'impulsion de départ et qui se battent depuis si longtemps. Cette conquête, c'est grâce à elles. Peut-être que nous, les jeunes, avons davantage vécu en personne ce moment de changement, mais ce sont elles qui en ont été à l'origine. Et c'est beau de voir la façon dont nous avons lutté ensemble pour ce droit, pour cette question de santé publique primordiale. Ça me rend hyper heureuse.
Milagros a été marquée par le récit de l'avortement clandestin qu'a subi sa grande sœur. Comme plusieurs centaines de milliers d'Argentines chaque année, celle-ci a dû interrompre sa grossesse de manière illégale et en étant peu accompagnée. Tous les ans, près de 40 000 femmes doivent être hospitalisées suite à des interventions réalisées dans de mauvaises conditions sanitaires. Des chiffres qui, les féministes l'espèrent, appartiennent désormais au passé. Buenos Aires, Audevillier-Moriamé, Europe 1.
Retour à Paris en studio et on est en ligne avec notre correspondante à Buenos Aires. Bonjour Aude.
Bonjour Sophie.
On a entendu ces militantes de tous âges revenir sur cette lutte historique en Argentine. Que prévoit le projet de loi finalement voté cette semaine ?
Alors les personnes enceintes pourront avorter gratuitement et sans condition jusqu'à la 14e semaine de grossesse, soit 2 semaines de plus qu'en France. Au-delà des 14 semaines, ce sera toujours possible en cas de viol ou si la grossesse présente un danger pour la santé de la personne enceinte. Deux autorisations qui étaient déjà prévues par la loi argentine jusqu'ici et dont certains professionnels de santé favorables au droit à l'IVG se saisissaient pour aider certaines femmes. Ils leur permettaient en fait d'accéder à l'avortement en jouant sur l'ambiguïté de cette notion de danger pour la santé, qui peut être un danger pour la santé psychologique par exemple. Mais à l'avenir, les Argentines n'auront plus besoin d'en passer par cette zone grise, ni de justifier leur décision d'interrompre une grossesse.
Alors, on a compris que ce droit à recourir à une IVG, malgré tout, divise profondément la société argentine, y compris, on l'imagine, le personnel médical. Et donc, la loi existe désormais, mais dans les faits, est-ce que les Argentines vont avoir accès à l'avortement à travers tout le pays ?
C'est effectivement une grande préoccupation des associations féministes. Elles regrettent que le projet de loi du gouvernement ait inclus l'objection de conscience. Selon la loi, les médecins qui refusent de pratiquer un avortement doivent renvoyer rapidement la patiente vers un confrère ou une consœur. Et des peines sont prévues pour ceux qui entraveraient l'accès des femmes à ce droit. Mais tout cela reste théorique. Il faudra voir si la loi sera bien appliquée dans les régions les plus conservatrices et catholiques du pays, notamment dans le nord de l'Argentine. Dans ces provinces, par exemple, les filles qui sont violées, qui demandent à avorter, sont souvent ignorée par la justice et par les hôpitaux, alors que l'accès à l'avortement en cas de viol est inscrit dans la loi argentine depuis bientôt un siècle. Mmh. Les associations féministes se sont donc promis de rester vigilantes pour suivre la mise en place de la loi.
La lutte n'est pas terminée donc, et ça d'ailleurs malheureusement, c'est valable partout. Mais grâce aux Argentines cette semaine, on peut se rappeler que la persévérance, ça peut mener à ça. Merci Aude de nous avoir permis d'entendre ces femmes et à très bientôt.
Merci Sophie, à bientôt.
Toute autre ambiance. Dans quelques instants, on part à la rencontre des pêcheurs britanniques très mécontents du dernier accord sur le Brexit. Ils se sentent lâchés.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Ça y est, c'est effectif. Depuis 3 jours, la période de transition est terminée. Les Britanniques ne font plus partie de l'Union européenne qu'ils ont choisi de quitter en votant en juin 2016. Et c'est donc à l'arrache, le soir de Noël, qu'un ultime accord a été trouvé pour se quitter avec un deal sur le commerce et la coopération. Pour faire simple, très simple, même Londres garde l'accès au marché des 450 millions de consommateurs européens, sans quotas ni frais de douane, mais avec des garde-fous tout de même. Mais le Royaume-Uni cède du terrain en matière de pêche. Les flottes européennes peuvent toujours attraper du poisson dans les eaux britanniques, même si elles devront réduire leur prise de 25% dans les 5 ans à venir. Le partage des eaux sera ensuite renégocié chaque année. De l'autre côté de la Manche, on fait grise mine. Les pêcheurs britanniques étaient parmi les fervents défenseurs d'un Brexit dur. Aujourd'hui, ils se sentent trahis et ils l'ont dit à Marion Gauthier, envoyée spéciale en Grande-Bretagne.
Quelques bâtiments de bois noir face à la mer dans la grisaille. Devant, la plage est recouverte de baraques exiguës et de filets vides. Il y a quelques années encore, le port de Hastings accueillait plus de 40 bateaux. Ils ne sont plus qu'une quinzaine aujourd'hui. Celui de Paul est l'un des plus gros, moins de 10 mètres, et la coque grignotée par la rouille.
Nous prenons de moins en moins de poissons à cause de tous ces gros navires européens qui les prennent avant nous et nous en laissent un peu moins chaque année. Et ça va ne faire qu'empirer. Il vide la mer de ces petits poissons.
Sur la côte sud de l'Angleterre, plus de 90% des bateaux de pêche font moins de 10 mètres, trop petits pour affronter la haute mer et s'y frotter aux chalutiers européens. Les marins sont fatigués de ne prendre que les restes dans leur filet.
Nous avons les Belges à 6 miles de nos côtes. Les Belges, les Néerlandais qui vont et viennent encore et encore, 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Ils ramènent tous les poissons jusqu'en Belgique, les vendent, les transforment, puis nous l'achetons ici. C'est ridicule. Restez hors de nos eaux, restez à 12 miles de nos côtes et laissez-nous de l'air.
Cet homme exaspéré, c'est Martin, un marin proche de la retraite, petit, les mains calleuses. Il porte à chaque oreille un anneau dans lequel se balance un voilier. Comme presque tous les pêcheurs, il a voté pour le Brexit parce qu'il voulait que les navires européens s'éloignent de la côte d'au moins 12 miles, environ 20 km. Mais l'accord prévoit finalement qu'ils pourront toujours s'approcher à 6 miles. Et dans ce ruban de mer, entre 6 et 12 miles du rivage, les eaux sont riches en poissons de toutes sortes. C'est de là que viennent la majorité des prises françaises. Martin et ses amis espéraient pouvoir enfin mieux remplir leur filet. C'est la douche froide.
Boris Johnson a utilisé la pêche comme son atout dans les négociations pour le Brexit. Il voulait s'assurer l'accès au marché unique européen, ce qui est bien pour le pays. Mais la pêche, elle a été vendue. Nous n'avons rien n'a changé.
Martin fulmine en regardant l'horizon. Paul, lui, reste calme, les épaules et les yeux baissés sur les petites réparations qu'il doit faire sur son bateau.
Les politiques britanniques ne se sont jamais vraiment souciés de nous, je pense. Ils disent qu'ils le font, et puis ils nous vendent. On est méprisés.
Paul vit de la pêche, comme son père et son grand-père avant lui. Mais ses deux fils ont pris d'autres chemins. Ici, des lignées de pêcheurs s'éteignent chaque année dans l'indifférence, manque de rendement et d'aide, et trop de contraintes.
Très peu d'enfants suivent leurs parents et se mettent à la pêche parce que les lois sont de plus en plus dures pour ces petits bateaux. On a les poissonniers, les contrôleurs marins qui toutes les semaines viennent regarder nos poissons et disent « Vous ne pouvez pas pêcher ça, il faut relâcher ça, vous n'avez pas le droit de pêcher ici et on en prend de moins en moins. Donc c'est impossible de gagner sa vie. »
Paul quitte la plage, les mains dans les poches, les yeux toujours baissés. Le retour au travail est difficile, résume un autre Paul. Lui, c'est le patron du port. Il nous reçoit chez lui et ressasse, incrédule, les détails de l'accord.
Cet accord donne encore 5 ans aux Européens. 5 ans pendant lesquels nous sommes parqués dans les 6 miles, alors que nous ne pouvons pas approcher la France ou la Belgique de moins de 12 miles. Les Européens doivent réduire leur prise de 25%, mais 25% de notre poisson à nous, car ce sont nos poissons.
À l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union, les eaux britanniques fournissaient 82% du poisson européen. Paul rumine ce chiffre. Impossible de comprendre pourquoi le Brexit ne leur a pas rendu leur territoire.
L'industrie de la pêche est rongée, rongée petit à petit, depuis des années, depuis que la politique commune de la pêche a été mise en place. Il y a très peu de perspectives à long terme. L'industrie de la pêche semble condamnée.
Et les marins n'ont aucune confiance dans les renégociations prévues dans 5 ans. Si le gouvernement nous a abandonnés une fois, disent-ils, il le refera. Hastings, Marion Gauthier, Europe 1.
Voilà l'amertume des pêcheurs extrêmement déçus des concessions faites par Boris Johnson dans l'accord post-Brexit. La pêche était l'un des points épineux des négociations, au centre des derniers arbitrages. Pourtant, le secteur pèse très peu, 0,1% du PIB britannique seulement, alors que les services financiers, par exemple la City, représentent 7% du PIB, mais ne sont pas inclus dans l'accord. Bonjour Elvire Fabry.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse à l'Institut Jacques Delors, spécialiste de la politique commerciale européenne et du Brexit. Merci d'être en ligne avec nous depuis Bruxelles. Le secteur des services et de la finance, c'est un peu technique, mais vous allez nous aider justement à comprendre ce qui est en jeu. Pas de disposition spécifique. La question a été sortie de l'accord. C'est pourtant un gros dossier dans la relation Royaume-Uni-Union européenne.
Oui, parce que les services financiers sont véritablement un pilier de l'économie britannique. On connaît le poids de la City. Mais c'est une question qui avait été traitée très clairement depuis déjà plusieurs années par Michel Barnier. À partir du moment où les Britanniques optaient pour un Brexit dur, où ils ne garantissaient plus leur alignement réglementaire sur les réglementations européennes, ils perdaient ce qu'on appelle le passeport financier, qui est le bénéfice qu'ont toutes les entreprises du secteur de la finance au sein des différents États membres de l'Union européenne, qui leur permet de faire du commerce de services et d'avoir des clients à travers toute l'Union européenne sans avoir de problème de réglementation spécifique. À partir du moment où les Britanniques ne garantissent plus cet alignement réglementaire, ils perdent ce passeport et il leur reste deux solutions qui n'étaient pas à discuter dans l'accord qui a été signé
le 24 décembre.
Exactement. Les deux solutions sont soit de devoir signer des accords spécifiques avec chaque État membre, des contrats commerciaux spécifiques, mais chaque État membre a encore des formulations de réglementation un peu différentes, soit d'obtenir auprès de la Commission européenne qu'ils garantissent des réglementations qui sont équivalentes à celles des États membres de l'Union européenne.
Ça reste à discuter.
Absolument. Et à l'instant T, aujourd'hui, c'est le cas. Mais on sait que le gouvernement britannique a des velléités de divergence réglementaire. Et s'il s'engage sur une voie d'une divergence, il n'obtiendrait pas cette équivalence. Les Européens se sont donné comme échéance de discuter ce principe d'équivalence fin mars. C'est indéniablement une décision politique pour montrer aux Britanniques quel est le coût de sortie de l'Union européenne. Et c'est en plus quelque chose qui est une décision unilatérale et qu'il pourrait suspendre très rapidement si les Britanniques divergeaient des réglementations européennes.
Et ce n'est pas anodin parce que la City vend 50% de ses produits financiers au sein de l'Union européenne. Donc ça a des conséquences pour tout le monde si ça ne marche plus.
Exactement. C'est-à-dire que s'ils décident de diverger de manière substantielle et que les Européens suspendent le principe d'équivalence qu'ils leur auront accordé, à ce moment-là, ils se privent d'une très forte d'une clientèle très importante qui pèse très lourd dans leurs bénéfices.
Et nous aussi, on a peut-être besoin de notre côté. L'autre gros dossier exclu de l'accord du 24 décembre, c'est le transfert des données personnelles, les fameuses RGPD. Qu'est-ce que ça représente? En fait, c'est quoi? Et pourquoi c'est important?
Les données personnelles, c'est tout ce que vous transférez lorsque vous faites une commande sur Internet, lorsque vous prenez un abonnement, lorsqu'il y a des transactions commerciales qui se font aussi entre les entreprises. C'est ce que les Européens se sont attachés à protéger à travers cette réglementation qu'on appelle en effet RGPD pour que on donne son consentement à l'utilisation des données personnelles Et c'est une façon de protéger la vie privée des individus sans que l'on puisse utiliser leurs données personnelles en sachant qu'on s'avance vers un développement de l'économie et de traitement de volume de données qui va être décisif et dont les entreprises sont très friandes.
Mais donc c'est essentiel pour faire du commerce, par exemple ?
C'est essentiel pour faire du commerce. C'est aujourd'hui toute la matrice de l'économie qui repose là-dessus. Mmh. Et le fait que l'on ne se soit pas accordé sur ce point dans l'accord est une vraie préoccupation pour les Britanniques, parce qu'ils vont être exposés à l'échéance qui a été fixée dans l'accord, la clause de rendez-vous, qui leur donne quelques mois simplement, au fait de pouvoir perdre cette libre circulation des données personnelles que l'on a au sein de l'Union européenne. Et il faut falloir, de la même façon que pour les services financiers, qu'ils puissent prouver qu'ils mettent en place une réglementation qui protège autant les données personnelles qu'au sein de l'Union européenne. Et tout ça intervient à un moment où les États-Unis, dans la perspective d'une négociation bilatérale avec le Royaume-Uni, font une forte pression sur le Royaume-Uni pour éloigner le pays de la réglementation européenne et garantir au contraire une libre circulation de toutes les données personnelles qui est le modèle américain.
Ça veut dire que ce sont d'énormes dossiers avec de gros enjeux. On a l'impression que c'est un petit peu loin de nous, mais en fait, c'est absolument essentiel pour que tout continue à fonctionner à peu près normalement.
C'est tout le paradoxe de cette négociation, c'est qu'on a le sentiment que Boris Johnson s'est focalisé sur des questions qui étaient davantage liées à une illustration de la souveraineté. Et on sait que la pêche a été, vous venez d'évoquer, un sujet délicat, alors que ces deux questions, notamment, qui restent à traiter, sont fondamentales pour l'économie britannique.
On se dit c'est fini le Brexit, la Grande-Bretagne est devenue un pays tiers, mais en fait tout n'est pas réglé du tout, tout n'est pas fini.
Non, c'est un dossier qui va nous occuper encore longuement, à la fois dans la précision des détails de l'accord et en effet pour un certain nombre de questions qui n'ont pas encore été traitées, même également dans le domaine de l'énergie et d'autres secteurs.
Merci beaucoup Elvire Fabry pour ces explications, ce décryptage des enjeux de cette relation qu'il va falloir maintenant expérimenter et donc affiner, continuer à affiner. Merci beaucoup, vous êtes chercheuse à l'Institut Jacques Delors, je le rappelle, et vous nous parliez depuis Bruxelles. Au revoir.
Au revoir.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Et c'est l'heure de la petite bulle culturelle des carnets, une musique dans le monde cette semaine avec Angèle Châtelier qui m'a rejoint. Bonjour Angèle.
Bonjour Sophie.
On vient d'en parler, le Brexit est désormais une réalité. Nous ne sommes plus que 27 dans l'Union européenne. Et vous avez pour nous une belle consolation, Angèle, une artiste qui navigue entre Bristol et Paris.
Cette voix divine et enchanteresse, c'est celle de Kate Stables, son nom de groupe This Is The Kit, avec lequel elle réhabilite le genre folk. Off, off, on est son cinquième album et le nombre de musiciens varie selon les disques. C'est mouvant au gré de ses envies et surtout de ses collaborations nombreuses depuis le début.
Elle s'est entourée de Jim Barr, le bassiste de Portishead notamment.
Oui, on le retrouve sur son deuxième album Wiggle Out The Restless. Collaboration prestigieuse, John Parish, connu pour avoir été pendant de nombreuses années aux côtés de PG Harvey. John Parish a produit le quatrième album de This Is The Kit appelé Moonshine Freeze. Sa musique, Kate Stables, s'inspire de tous les territoires qu'elle a habités. Elle est née à Winchester, dans le sud de l'Angleterre, puis a migré vers Bristol à la vingtaine pour ses études, avant de venir s'installer à Paris. Ce qu'elle aime le plus ici, les parcs et les initiatives pour promouvoir la vie en communauté.
Moi, j'aime bien les gens et les parcs. J'aime bien me promener dans le 18e et tous les parcs dans ce quartier. J'aime bien Jardin des Halles. Je pense que ça, c'est mon parc préféré. Et j'aime bien tous les petits projets qui, dans les quartiers où il y a un peu de place pour faire un petit jardin. Où j'ai même trouvé une ferme, une petite ferme dans le 18e l'autre jour. Il y avait deux moutons et quelques poules. Bristol, c'est vraiment des gens que j'aime bien et les projets organisés par les communautés, les centres d'animation, les fermes que les gens ont fait et les espaces publics, les bibliothèques, c'est ça qui m'intéresse dans toutes les villes en fait. No, they will not.
Et moi, j'adore son petit accent anglais,
moi
en plus,
aussi,
trop
j'adore.
Mignon. Bon, on imagine que Kate Stables, qui voyage entre l'Angleterre et la France avec son groupe This is the Kit, a un avis bien tranché sur le Brexit.
Et oui, c'est pour elle une désolation.
C'est hyper déprimant, je trouve, parce que c'est en ce moment, on n'a vraiment pas besoin encore des barrières, encore des frontières et des choses qui divisent les gens. C'est nul pour l'avenir des jeunes. Le fait qu'ils ne peuvent plus se déplacer en Europe et voir des autres pays et faire des échanges avec des gens. Et j'ai assez peur pour l'avenir de l'Angleterre. It's now the business of the young'uns.
Had a method, found a system. Mais le fil rouge de ces textes pour ce cinquième album, c'est l'espoir, celui de revenir sur les routes bientôt, notamment avec This Is The Kid. Kay Stables était en tournée l'année dernière aux côtés du groupe The National. Mais son espoir à elle aussi, comme nous tous, hein, c'est de vivre une année 2021 meilleure et mettre sa musique dans nos oreilles, je trouve, aide à y croire. The power in the naming. The story is the telling. Potential in the waiting.
Vers 2021, allons-y. Off, on, c'est le cinquième album de This is the Kit que l'on vient de découvrir avec vous, Angèle Châtelier. Merci beaucoup.
Merci Sophie.
Et à bientôt.
À bientôt.
Et le voyage continue. Prochaine destination, l'Inde, où les agriculteurs manifestent aux portes de la capitale depuis un mois déjà.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
En Inde, la crise dure depuis un mois. Le Premier ministre Narendra Modi fait face à l'un des plus importants mouvements sociaux depuis son élection. Les fermiers se rebellent contre des lois qui libéralisent le secteur agricole. Beaucoup convergent vers New Delhi pour exiger le retrait de ces lois, mais le gouvernement s'y refuse et leur bloque l'entrée de la capitale. Pas de quoi décourager ces agriculteurs. Chaque jour, la crise s'aggrave sur des kilomètres le long des autoroutes de New Delhi. Des cantines communautaires, des dortoirs et des camps médicaux ont poussé, on dirait presque des villes autonomes. Comme Bastin est allé visiter l'une d'entre elles. Reportage.
Sont-ils des dizaines ou des centaines de milliers ? Difficile de compter les manifestants répartis sur des kilomètres le long de plusieurs autoroutes. Ils sont en colère contre la libéralisation du secteur agricole et sont venus le dire aux dirigeants à New Delhi. Depuis son tracteur transformé en roulotte résidentielle, Arandir Singh explique pourquoi il a fait le déplacement.
Je suis venu de l'état de l'Haryana il y a 5 jours. Le gouvernement prétend que grâce aux acheteurs privés, nous allons toucher des revenus supplémentaires. Mais pour nous, les prix minimums garantis par l'État sont vitaux. Nous ne voulons pas être livrés aux mains du marché.
Les agriculteurs protestent contre une série de lois permettant l'achat de denrées directement auprès des paysans. Ils craignent que cela ne conduise à la mort des prix minimums garantis par les marchés publics. Et comme depuis un mois, la police leur interdit l'entrée de New Delhi, les fermiers se sont carrément installés aux portes de la capitale. Membre d'un syndicat communiste qui soutient le mouvement, Abhishek Singh nous fait la visite.
On se trouve sur une importante autoroute de la ville bloquée par les manifestants. On est à la frontière entre New Delhi, la capitale, et l'état de l'Haryana, qui est très agricole. Derrière les barricades de police, vous pouvez voir la principale scène où ont lieu les discours. Il y a aussi des cantines communautaires tenues par des fermiers qui sont venus avec 6 mois de réserve de nourriture. Et en remontant le long de l'autoroute, vous trouverez aussi beaucoup de dortoirs pour les manifestants.
Dirigé par le parti d'opposition AAP, le gouvernement régional de Delhi soutient les manifestants, mais la police, elle, obéit au pouvoir central indien. Par solidarité, certains habitants de la capitale ont rejoint les paysans. C'est le cas du pharmacien Surender Kumar.
Si le secteur agricole est livré au marché, le prix de la nourriture va augmenter. Ces gens se battent donc pour tous les Indiens. Nous avons établi ici un camp médical. Nous distribuons du paracétamol, de l'amoxicilline. Tout vient de nos stocks, c'est gratuit.
Totally free.
En ce mois de décembre, les nuits sont glaciales à Delhi et au moins 30 fermiers sont déjà morts de froid sur les routes. Un peu plus loin, un centre commercial abandonné a été investi par les manifestants pour se mettre à l'abri. Un organisateur décrit.
Nous avons installé des tentes et nous hébergeons en priorité les femmes et les personnes âgées pour qu'elles ne dorment pas dehors. Nous avons aussi mis en place des machines à laver collectives et nous stockons de la nourriture.
Ce qui était au début une simple manifestation prend de plus en plus des airs de fête de l'UMA version indienne. Mais la rage est palpable, comme en témoigne ce slogan ciblant le Premier ministre et inscrit sur une grande banderole. Inventant une machine à remonter le temps pour donner un préservatif aux pères de maudits. Dans un dortoir, un responsable d'une organisation agricole a entamé une grève de la faim.
Mon grand-père est mort après 74 jours de grève de la faim. Et aujourd'hui, le gouvernement de Narendra Modi veut nous condamner à la mort. Alors depuis 10 jours, j'ai moi aussi cessé de m'alimenter et de boire, comme les 6 camarades qui sont à côté de moi d'ailleurs.
Les fermiers sont bien décidés à tenir le bras de fer aussi longtemps qu'il faudra pour obtenir le retrait des lois, mais le gouvernement refuse de faire marche arrière. Les abords de la capitale pourraient être encore occupés des mois. À New Delhi, comme Bastin, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 et pour comprendre un peu mieux la situation, on est en ligne avec notre correspondant depuis Delhi. Bonjour Com.
Bonjour Sophie.
Ces nouvelles lois permettent aux agriculteurs de vendre leur production à qui ils veulent et plus uniquement au marché contrôlé par l'État. Alors sur le papier, ça semble intéressant. Pourquoi cette colère ?
Alors, le gouvernement met en avant que ces marchés publics garantissent un prix minimum, mais qu'ils prélèvent aussi une commission. Donc, se passer de ces intermédiaires, ce serait plus de profit pour les agriculteurs et aussi du temps gagné, car ces marchés, appelés mandis, sont parfois éloignés des exploitations. Les mandis, c'est un héritage de la révolution verte des années 60. Ils ont permis de faire disparaître la faim en Inde, notamment en transformant les états du Punjab et de l'Haryana en greniers à riz et blé pour tout le pays. Mais ce sont justement les fermiers de ces états qui mènent aujourd'hui la fronde. Leur grande peur, c'est que les géants de l'agroalimentaire s'arrogent le monopole des achats. Les firmes pourraient alors dicter leurs prix. La crainte est d'autant plus grande qu'un volet des lois empêche les agriculteurs de contester un contrat passé avec un acheteur privé auprès de la justice. Bref, ils ont l'impression qu'ils vont être abandonnés à la loi du marché.
Le secteur agricole, c'est un poids énorme en Inde. 15% du PIB du pays, 70% des habitants en vivent. Que représentent ces petits fermiers qui craignent de se faire croquer par les gros ?
Eh bien, ils représentent la majorité des exploitants. Selon une étude de 2016, 85% des paysans possèdent moins de 2 hectares de terre. En Inde, on a une agriculture qui s'est en partie modernisée, mais continue à faire travailler, vous l'avez dit, 70% de la population. En fait, l'Inde ne crée pas assez d'emplois pour absorber l'excédent de main-d'œuvre du monde rural. Un autre problème, c'est qu'à la mort du père, les exploitations sont souvent divisées entre les fils. Résultat, ces petits fermiers sont souvent très mal armés pour faire face aux gros. Dans le Kerala, par exemple, où les marchés publics sont quasi inexistants, dans les années 2000, des multinationales ont commencé à acheter le kilo de vanille à 4000 roupies. Beaucoup d'agriculteurs ont sauté sur ces tarifs alléchants, mais du coup, le prix est peu à peu tombé à 300 roupies, laissant tous ceux qui avaient réorienté leur production sur la paille. C'est la multiplication de ce genre de scénario que les manifestants redoutent.
Oui, parce que ces petits exploitants, ceux qui manifestent et qui sont très nombreux, donc, ils galèrent.
Oui, aujourd'hui, l'agriculture indienne est à bout de souffle. Les récoltes sont de plus en plus aléatoires à cause du changement climatique qui provoque des sécheresses, des inondations. Et puis, dans les états du Punjab et de l'Haryana dont on parlait, le modèle intensif a atteint ses limites. Les sols sont épuisés, les nappes phréatiques également, et les agriculteurs sont endettés par des intrants et des semences industrielles pourtant subventionnées. Mmh. Il devient très, très dur de vivre de l'agriculture. Et en 2019, plus de 10 000 fermiers se sont suicidés.
Ouais, c'est un phénomène absolument terrible. Ça laisse penser que le secteur a bien besoin de réformes, mais peut-être pas celles que veut imposer Narendra Modi, c'est ça ?
On est un peu dans une double impasse. Les réformes libérales suscitent des craintes légitimes, mais le modèle actuel ne peut plus perdurer. Une des solutions prônées, ce serait d'étendre les prix minimums à d'autres cultures que le blé et le riz. Ça permettrait aux fermiers de se diversifier, de sortir de la monoculture chimique. D'ailleurs, plusieurs États indiens ont déjà entamé une impressionnante transition agricole, comme le Sikkim qui est passé au 100% bio, ou le Kerala qui est à 50%. En fait, l'agriculture indienne est très diverse d'un état à l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un besoin énorme de modernisation et d'investissement pour améliorer le sort des paysans. Mais pour l'instant, les manifestants se contentent surtout de rejeter les nouvelles lois.
Dernier point, comme un peu hors sujet, mais tout de même, on se demande, quid du coronavirus dans tout ça ? On applique les gestes barrières dans ces grandes manifs ?
Pas du tout. On a des centaines de milliers de personnes massées aux frontières de la capitale, dont à peine 1 sur 10 porte un masque. Ouais. C'est assez effrayant. Ceci étant, après un mois de contestation, aucun cluster ne semble s'être développé. Plus généralement, l'Inde affiche une impressionnante résistance au virus avec des cas en baisse depuis 2 mois, alors même que le pays est à 90% déconfiné.
Étrange virus, décidément. Merci Koum pour ce coup de projecteur sur cette question très importante de l'avenir du secteur agricole en Inde. À très bientôt.
À bientôt, Sophie.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Nous voilà en Thaïlande, un pays où beaucoup de Français et d'Européens avaient l'habitude d'aller se réchauffer pendant les fêtes de fin d'année et les vacances d'hiver. La Thaïlande recevait jusqu'à 40 millions de touristes par an. Mais cette année, le changement de décor est radical. Les plages et les cocotiers sont toujours là. Mais les touristes, à cause du coronavirus, évidemment, manquent à l'appel. Les îles paradisiaques du sud du pays, normalement bondées, sont désertes. Écoutez ce reportage de Carole Izou, qui a parcouru un pays méconnaissable.
Des eaux turquoises et du sable blanc. Sur l'île de Koh Samui, la plage de Chaweng est encore plus belle que d'habitude. En l'absence de touristes, la nature respire, les poissons s'approchent du rivage, du jamais vu depuis des décennies dans cette île normalement prise d'assaut pendant l'hiver européen. Aujourd'hui, elle ressemble presque à une île déserte. La plupart des employés des hôtels sont rentrés chez eux dans leur village du nord ou en Birmanie, toute proche. Pour ceux qui restent, en l'absence d'aide du gouvernement, c'est la débrouille pour trouver chaque jour de quoi manger. Tôt le matin, des femmes, protégées par de grands chapeaux, s'enfoncent dans l'eau jusqu'aux genoux pour pêcher.
Avant, j'étais femme de ménage dans un hôtel, mais il a fermé. C'est assez difficile, vous savez. Je viens là le matin pour essayer d'attraper quelques poissons. Si j'en attrape assez, je peux même en vendre. Je vis avec ma nièce. Elle travaille comme caissière dans une supérette. Elle s'occupe de moi.
Ceux qui disposent d'un petit lopin de terre se sont mis à planter des légumes. Partout, les rues sont vides, les magasins fermés comme dans une ville fantôme. Beaucoup de ces commerçants qui vivaient exclusivement du tourisme craignent que l'île ne se remette jamais de cette crise. C'est le cas de Pichai, le jeune propriétaire d'un bar de plage.
Vous voyez, on est le seul bar ouvert sur la plage. Avant, il y en avait des milliers. Tout le long de la plage, ce ne sont que des hôtels et des resorts. Et là, ils sont tous fermés. Pour les commerçants, je ne pense pas qu'on pourra tenir si on doit vivre ça encore pendant un an. Sans les touristes ici, on ne peut pas survivre.
Pendant 7 mois, la Thaïlande a fermé ses frontières aux touristes. Elle vient de les rouvrir, mais avec des conditions très contraignantes et notamment l'obligation d'une 14aine très coûteuse dans un hôtel avant de pouvoir se déplacer sous contrôle dans le pays. Pour l'instant, seuls quelques ressortissants chinois ont répondu à l'appel. Mais en attendant, le gouvernement a mis en place des campagnes promotionnelles pour encourager le tourisme domestique. Et dans certaines villes, ça marche. Même à Bangkok, certains quartiers renaissent grâce à la venue de nouveaux visiteurs thaïlandais. Près de la rivière, l'ancien quartier des ferrailleurs, avec ses maisons sur pilotis et ses carcasses de voitures, fait désormais fureur auprès de la jeunesse. Koudlek y tient depuis des décennies une petite épicerie désormais très photographiée. Elle n'est pas encore habituée à être devenue une attraction touristique.
Avant, on était inondés tout le temps. Personne ne venait par ici. Mais on est devenu à la mode. Ce sont des jeunes, des étudiants. Ils viennent se prendre en photo devant les vieilles maisons ou les tas de ferrailles. C'est bizarre, on dirait qu'ils aiment les vieilleries.
Dans d'autres quartiers, certains temples auparavant très visités retrouvent un peu de leur aura sacrée. Les fidèles reviennent y prier et y méditer en paix. Les Thaïlandais se réapproprient des lieux qui avaient été confisqués par le tourisme de masse. Pour Nikki, étudiante en marketing, c'est aussi une occasion de redécouvrir l'histoire de la ville.
C'est plutôt beau de découvrir nos anciens quartiers, de comprendre comment les choses ont changé. L'architecture ancienne qui se mélange à la moderne. Ils essaient vraiment de faire revivre ce quartier depuis quelque temps. Il y a même des installations d'art le soir. En ce moment, il y a plein de monde parce qu'on ne peut aller nulle part. Donc on est devenus des touristes dans notre propre ville.
Des voix s'élèvent pour suggérer qu'il serait peut-être temps de réfléchir à un autre modèle économique pour la Thaïlande que celui du tourisme de masse. Un modèle moins dépendant de l'étranger, plus respectueux de l'environnement. Mais dans la crise que traverse aujourd'hui le pays, ces voix restent largement minoritaires. À Bangkok, Eco Samui, Carole Izou, Europe 1.
Retour dans les studios d'Europe 1 après cette vadrouille dans un pays transformé. Bonjour Carole.
Bonjour Sophie.
Vous êtes en ligne avec nous depuis Bangkok. Alors qui sont ces voix minoritaires qui réclament la fin du tourisme de masse ?
Alors, il y a quelques associations écologistes, des groupes de pêcheurs ou des simples citoyens qui voient les bénéfices de ces changements. Par exemple, il y a environ 2 semaines, une colonie de tortues est venue pondre sur la plage à Koh Samui. Et ça a provoqué une grande joie vraiment chez les résidents qui n'avaient jamais vu ça. L'épisode a lancé une réflexion sur un tourisme plus durable. Mais pour la plupart des gens, ceux qui travaillaient dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, pour les commerçants qui profitaient même indirectement de la manne touristique, tout cela bien sûr ne veulent pas entendre parler de restrictions du tourisme ou d'un changement de modèle économique.
Ça veut dire qu'ils espèrent que tout va repartir comme avant ?
Eh oui, et même en plus grand, en plus fort, en misant sur la bonne image que s'est forgée la Thaïlande pendant la gestion de l'épidémie. Alors, je vous dis ça, mais depuis quelques jours, le pays affronte sa 2e vague qui est d'une ampleur sans précédent ici. Mais ce sont des proportions qui restent bien inférieures à celles de l'Europe. Et c'est d'ailleurs une partie du problème. Cet épisode Covid génère, il faut bien le dire, une certaine méfiance à l'égard des Européens pour la façon dont ils gèrent la crise sanitaire. Et désormais, la Thaïlande se tourne de plus en plus vers les touristes asiatiques, en particulier les Chinois. Et pour les îles du Sud, c'est un changement de taille, car jusqu'ici, elles avaient ciblé plutôt les jeunes Européens, adeptes des auberges de jeunesse et des petits bars de plage. Et donc, ces îles doivent complètement réinventer leur modèle.
Mais est-ce que tout ça peut reprendre comme si de rien n'était, vraiment, en Thaïlande comme ailleurs d'ailleurs, hein ?
Alors, les professionnels du tourisme s'accordent à dire qu'il y aura des changements majeurs. Beaucoup d'opérateurs ne vont pas survivre à la crise, donc on va sans doute assister à une concentration du secteur entre quelques mains. Et puis, certains types de voyages pourraient être plus demandés à l'avenir. Écoutez l'analyse de Kim Rasmussen qui dirige une agence de voyage à Bangkok.
Les deux segments qui vont exploser, à mon avis, c'est d'abord le voyage de luxe, parce que les gens qui ont de l'argent peuvent se permettre de payer pour des voyages privés, des avions privés, des voitures particulières pour circuler, pour rester en sécurité dans leur petite bulle. Et puis le secteur aventure, parce qu'en général, ça concerne des gens plus jeunes, plus audacieux, qui ont moins peur de prendre des risques, veulent sortir des circuits de masse et privilégient des destinations plus nature, en extérieur.
Et donc si ces tendances se confirmaient, ce serait là encore un casse-tête pour l'Asie du Sud en général, car elle avait bâti son succès sur les voyageurs à budget modéré, et changer de clientèle nécessiterait de faire des investissements très importants.
Merci beaucoup, merci Carole pour ces explications et pour cette balade dans une Thaïlande contrainte de s'adapter, on l'a entendu, hein, pour le meilleur et pour le pire. À bientôt, Carole.
Au revoir, Sophie.
À suivre, une petite virée en Autistan. On sera avec Joseph Chovanec dans un tout petit instant.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Et quand on ne peut plus voyager à cause d'un méchant virus, on peut toujours vadrouiller en autistan grâce à Joseph Chovanec. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Philosophe, autiste Asperger et voyageur, vous partagez avec nous votre regard sur le monde, un regard qui nous fait prendre de la hauteur aujourd'hui, si j'ai bien compris.
Oui Sophie, c'est l'une de ces expériences magiques dont je ne me lasse jamais, c'est de regarder les foyers de peuplement humain, les grandes villes, petits villages, etc., de les regarder la nuit depuis un avion. Les lumières dans la nuit sont si étrangement similaires que vous survoliez Paris, Khartoum, un village chinois ou australien, vous ne les distingueriez pas, sauf peut-être dans le cas de la Belgique qui ressort sur les photos satellites nocturnes parce qu'on y éclaire beaucoup les rues. Autoroute, hein. Il y a quelque chose de profondément humaniste dans ces spectacles nocturnes. Face à la nuit noire, surtout celle qui dure pendant l'hiver, les humains sont tous égaux.
Alors, vu du ciel, ça peut donner cette impression, mais pourtant, on n'a pas tous le même usage de l'électricité dans le monde, c'est une certitude.
Alors c'est vrai que quand on est sur le plancher des vaches, si vous me passez l'expression, selon les lieux, les cultures, la façon de faire change. Dans certains pays, on évite de trop éclairer la nuit. Mes parents, qui étaient des réfugiés politiques tchécoslovaques, étaient un peu comme ça. Certains soirs, ils évitaient d'allumer la lumière et ils évoquaient des souvenirs de l'époque soviétique. Ce choix du faible éclairage m'avait aussi donné à réfléchir pendant mon séjour archéologique en Géorgie. Nous étions logés dans un tout petit hameau perdu dans le Caucase. Et culture géorgienne oblige, c'était la fête tous les soirs, jusque tard dans la nuit, avec beaucoup, beaucoup d'alcool, mais très peu de lumière. Hein. Une petite lampe devant la porte du chalet, une ampoule au-dessus de la table dehors, un feu, et c'est tout. Hein. Réflexion faite, ce faible éclairage était délibéré. Il crée un cadre féerique, permettait de voir les étoiles. Si mes amis géorgiens avaient installé des projecteurs puissants, on aurait perdu tout contact avec l'environnement naturel.
Et d'ailleurs, l'obscurité est essentielle à la survie de certaines espèces d'oiseaux migrateurs qui voyagent de nuit et qui se repèrent grâce aux étoiles. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré ces pensées sur la nuit, Joseph ?
Mais c'est tout simple, il y a quelques jours j'en ai fait l'expérience en Suède. Actuellement à Stockholm, la nuit dure environ 20 heures par jour. Dans le nord du pays, elle est permanente. On pourrait croire que dans les lieux où la nuit est aussi longue, les gens chercheraient à la casser par une surenchère de projecteurs, de néons clignotants, bref, de transformer la nuit polaire en une sorte de jour artificiel. Il n'en est rien. Si l'on accepte, et encore j'ai un petit doute, le centre-ville historique de Stockholm, l'éclairage public massif est rare en Suède.
Ce n'est pas la nuit noire quand même.
Mais si, mais vous y verrez quand même des petites lumières un peu partout. C'est que tout le monde en Suède met des sources de lumière décoratives derrière sa fenêtre. Des étoiles artistiques, mais aussi des espèces de pyramides avec des bougies dessus. L'objectif ici est purement esthétique. Ces sources de lumière n'éclairent ni la rue, ni l'intérieur des maisons, mais éclairent les cœurs. Quand vous marchez seul pendant des heures dans la nuit noire, avec le froid mordant autour de vous et quelques flocons, c'est l'expérience qui parle. Le défilé de ces sources de lumière crée une sensation hypnotique. Et je suis convaincu que c'est de là que vient le fameux design suédois. Hein. C'est de l'arrangement savant des petites sources de lumière. À Stockholm notamment, il y a des dizaines de magasins qui proposent non pas des lampes au sens exact, mais des objets lumineux. Et plusieurs de ces magasins ont dans leur nom le mot grand-mère. Et c'est vrai, quand vous en poussez la porte, vous entrez dans une sorte de grenier assez fabuleux. Fabuleux de grand-mère collectionneuse, expérience à faire dans la vie. En somme, pour découvrir un pays, il faut connaître sa nuit. Hein, et ne pas oublier le dicton suédois utile pour l'année nouvelle. Det är som mörkast innan gryningen. C'est avant l'aube qu'il fait le plus sombre.
Ouais, on va dire qu'avant l'aube, c'était 2020 et qu'on va bientôt voir la lumière alors. C'est ça.
Espérons.
Voilà. Merci beaucoup Joseph pour cette balade nocturne et on vous retrouve dimanche prochain.
À très bientôt, bonne année.
Il est temps de refermer les carnets du monde. Merci de nous avoir accompagnés. Si le cœur vous en dit, vous pouvez réécouter reportages et chroniques. Il suffit d'aller vous promener sur le site europe1.fr. Un grand merci à Marc Fréjean et Marion Gauthier qui ont réalisé et préparé cette émission. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous laisse en compagnie d'Eva Rock et de son formidable podcast Sériland. C'est dans quelques minutes.